Le bouchon de cristal. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Arrestation. Les deux barques se balançaient dans l'ombre, attachées au petit môle qui pointait hors du jardin. À travers la brume épaisse, on apercevait çà et là, sur les bords du lac, des fenêtres éclairées. En face, le casino d'Enghien ruisselait de lumière, bien qu'on fût au dernier jour de septembre. Quelques étoiles apparaissaient entre les nuages. Une brise légère soulevait la surface de l'eau. Arsène Lupin sortit du kiosque où il fumait une cigarette et se penchant au bout du moule.
« Grognard, le balu, vous êtes là ?»
Un homme surgit de chacune des barques et l'un d'eux répondit
« Oui, patron. »
« Préparez-vous, j'entends l'auto qui revient avec Gilbert et Vaucheret. »
Il traversa le jardin, fit le tour d'une maison en construction dont on discernait les échafaudages et entr'ouvrit avec précaution la porte qui donnait sur l'avenue de Ceinture.
Il ne s'était pas trompé.
Une lueur vive jaillit au tournant et une grande auto découverte s'arrêta d'où sautèrent deux hommes vêtus de par-dessus au col relevé et coiffés de casquettes. C'était Gilbert et Vaucheret. Gilbert, un garçon de 20 ou 22 ans, le visage sympathique, l'allure souple et puissante. Vaucheret, plus petit, les cheveux grisonnants, la face blême et maladive.
« Eh bien, vous l'avez vu, le député ?»«
Oui, patron, » répondit Gilbert.
« Nous l'avons aperçu qui prenait le train de 7h40 pour Paris, comme nous le savions. »
En ce cas, nous sommes libres d'agir.
Entièrement libres. La villa Marie-Thérèse est à notre disposition.
Le chauffeur étant resté sur son siège, Lupin lui dit
« Ne stationne pas ici. Ça pourrait attirer l'attention. Reviens à 9h30 précise. Attends pour charger la voiture. Si toutefois l'expédition ne rate pas. »
Mais pourquoi voulez-vous que ça rate ?
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui ai préparé le coup. Et quand ce n'est pas moi, je n'ai qu'à moitié confiance.
Bah, patron, voilà 3 ans que je travaille avec vous. Je commence à la connaître.
Ah oui, mon garçon, tu commences. Et c'est justement pourquoi je crains les gaffes. Allons, embarque. Et toi, Vaucheret, prends l'autre bateau. Bien. Maintenant, nagez les enfants. Et le moins de bruit possible.
Grognard et le balu, les deux rameurs, piquèrent droit vers la rive opposée, un peu à gauche du casino. On rencontra d'abord une barque, où un homme et une femme se tenaient enlacés et qui glissaient à l'aventure. Puis une autre, où des gens chantaient à tue-tête. Et ce fut tout. Lupin se rapprocha de son compagnon et dit à voix basse
« Dis donc, Gilbert, c'est toi qui as eu l'idée de ce coup-là ? Ou bien Vaucheret ?
Ma foi, je ne sais pas trop. Il y a des semaines qu'on en parle tous deux.
C'est que je me méfie de Vaucheret. Un sale caractère, en dessous. Je me demande pourquoi je ne me débarrasse pas de lui.
Oh, patron !
Mais si. C'est un gaillard dangereux. Sans compter qu'il doit avoir sur la conscience quelques peccadilles plutôt sérieuses.
Il demeura silencieux un instant et reprit.
Ainsi, tu es bien sûr d'avoir vu le député Dobrec. De mes yeux vus, patron. Et tu sais qu'il a un rendez-vous à Paris.
Il va au théâtre.
Bien. Mais ses domestiques sont restés à sa villa d'Enghien.
La cuisinière est renvoyée.
Quant au valet de chambre, Léonard, qui est l'homme de confiance du député Dobrec, il attend son maître à Paris, d'où ils ne peuvent pas revenir avant 1h du matin.
Mais,
nous devons compter sur un caprice possible de Dobrec, sur un changement d'humeur,
sur un retour inopiné et par conséquent prendre nos dispositions pour avoir tout fini dans une heure. Et tu possèdes ces renseignements ?
Depuis ce matin. Aussitôt, Vaucheray et moi, nous avons pensé que le moment était favorable.
J'ai choisi comme point de départ le jardin de cette maison en construction que nous venons de quitter et qui n'est pas gardé la nuit. J'ai averti deux camarades pour conduire les barques et je vous ai téléphoné. Voilà toute l'histoire.
Tu as les clés ?
Celle du perron.
C'est bien la villa qu'on discerne là-bas, entourée d'un parc ?
Oui, la villa Marie-Thérèse. Et comme les deux autres, dont les jardins l'encadrent, ne sont plus habités depuis une semaine, et nous avons tout le temps de déménager ce qu'il nous plaît. Et je vous jure, patron, que ça en vaut la peine.
Beaucoup trop commode l'aventure. Aucun charme.
Ils abordèrent dans une petite anse, d'où s'élevaient à l'abri d'un toit vermoulu quelques marches de pierre. Lupin jugea que le transbordement des meubles serait facile. Mais il dit soudain
« Il y a du monde à la villa. Tenez, une lumière. C'est un bec de gaz, patron. La lumière ne bouge pas. »
Grognard resta près des barques, avec mission de faire le guet, tandis que le balu, l'autre rameur, se rendait à la grille de l'avenue de Ceinture et que Lupin et ses deux compagnons rampaient dans l'ombre jusqu'au bas du perron. Gilbert monta le premier. Ayant cherché à tâtons, il introduisit d'abord la clé de la serrure, puis celle du verrou de sûreté. Toutes deux fonctionnèrent aisément, de sorte que le battant put être entrebâillé et livra passage aux trois hommes. Dans le vestibule, un bec de gaz flambait.
« Vous voyez, patron ?»«
Oui, oui. Mais il me semble que la lumière qui brillait ne venait pas de là. »
Et d'où alors ?
Ma foi, je n'en sais rien. Le salon est ici ?
Eh non !
Répondit Gilbert, qui ne craignait pas de parler un peu fort.
Non, par précaution, il a tout réuni au premier étage, dans sa chambre et dans les chambres voisines.
Et l'escalier ?
À droite, derrière le rideau.
Lupin se dirigea vers ce rideau. Et déjà, il écartait l'étoffe quand tout à coup, à quatre pas sur la gauche, une porte s'ouvrit et une tête apparut. Une tête d'homme blême, avec des yeux d'épouvante.
Au secours ! À l'assassin !
Et précipitamment, il entra dans la pièce.
C'est Léonard, le domestique !
Cria Gilbert.
S'il fait des manières, je l'abats !
Gronda Vaucheray.
Tu vas nous fiche la paix, Vaucheray, hein ?
Ordonna Lupin, qui s'élançait à la poursuite du domestique. Il traversa d'abord une salle à manger, où il y avait encore, auprès d'une lampe, des assiettes et une bouteille. Et il retrouva Léonard au fond d'un office dont il essayait vainement d'ouvrir la fenêtre.
« Ne bouge pas, l'artiste. Pas de blague. Ah, la brute !»
Il s'était abattu à terre d'un geste en voyant Léonard lever le bras vers lui. Trois détonations furent jetées dans la pénombre de l'office. Puis le domestique bascula, saisi aux jambes par Lupin, qui lui arracha son arme et l'étreignit à la gorge.
Ah, sacré brute, va. Un peu plus, il me démolissait. Vaucheray, ligote-moi ce gentilhomme.
Avec sa lanterne de poche, il éclaira le visage du domestique, Ericana.
Pas joli, le monsieur, hein ? Tu ne dois pas avoir la conscience très nette, Léonard. D'ailleurs, pour être le larbin du député Daubrec...
Tu as fini, Vaucheray ?
Je voudrais bien ne pas moisir ici.
Aucun danger, patron, dit Gilbert.
Ah, vraiment ?
Et le coup de feu ? Tu crois que ça ne s'entend pas ?
Absolument impossible. N'importe, il s'agit de faire vite. Vaucheray, prends la lampe et montons.
Il empoigna le bras de Gilbert et l'entraînant vers le premier étage.
Imbécile !
C'est comme ça que tu t'informes ?
Avais-je raison de me méfier ?
Voyons, patron, je ne pouvais pas savoir qu'il changerait d'avis et reviendrait dîner. On doit tout savoir quand on a l'honneur de cambrioler les gens.
Mazette,
je vous retiens, Vaucheray et toi.
Vous avez le chic.
La vue des meubles au premier étage apaisa Lupin. et commençant l'inventaire avec une satisfaction d'amateur qui vient de s'offrir quelques objets d'art.
« Bigre !»
Peu de choses, mais du nanon.
Ce représentant du peuple ne manque pas de goût. 4 fauteuils d'Aubusson, un secrétaire signé, je gage, Percier Fontaine, 2 appliques de gouttière, un vrai fragonard et un faux natier qu'un milliardaire américain avalerait tout cru. Bref, une fortune. Et il y a des grincheux qui prétendent qu'on ne trouve plus rien d'authentique. Crebleu, qu'ils fassent comme moi, qu'ils cherchent.
Gilbert et Vaucheray, sur l'ordre de Lupin et d'après ses indications, procédèrent aussitôt à l'enlèvement méthodique des plus gros meubles. Au bout d'une demi-heure, la première barque étant remplie, il fut décidé que Grognard et le Balu partiraient en avant et commenceraient le chargement de l'auto.